Tu es celui non seulement qui a appelé à l'existence, Seigneur, les choses qui n'existaient pas encore, mais tu es aussi celui qui soutient toutes choses par ta main toute puissante. Merci de ce que malgré ta grandeur immense, inconcevable, Seigneur, malgré tout ce que tu es, tu as quand même choisi de nous aimer, de te révéler à chacun de nous. Et nous voulons te dire merci pour avoir été un jour atteint par ton choix. Merci pour tout, Seigneur. Notre prière est que tu nous aides à vivre, à expérimenter ta grandeur dans notre vie. Certes, nous sommes limités dans l'espace et dans le temps. Certes, nous avons des ressources, Seigneur, humaines qui s'épuisent aussi facilement, de ressources qui ne sont pas intarissables. Mais avec toi, nous pouvons tout. Comme ton serviteur, l'apôtre Paul, a dit, je puis tout par celui qui me soutient, par celui qui me fortifie. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu es. Nous venons de passer des moments merveilleux en ta présence, des moments qui nous ont permis de t'exprimer nos sentiments de louange, nos sentiments d'adoration, des moments qui nous ont permis, Seigneur, d'élever ton nom au-dessus de tout, de proclamer qui tu es, de reconnaître en toi celui dont le règne est éternel, celui qui est assis sur le trône et à partir duquel il étend son règne, non seulement dans le ciel des cieux, mais aussi dans cet univers physique. Merci, merci pour tout. Maintenant, nous voulons, Seigneur, te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Nous connaissons, ô Dieu, toute l'importance de manger ta parole. Nous savons, Seigneur, que par ta parole, tu te révèles à nous. Par ta parole, tu nourris, Seigneur, notre être intérieur. Par ta parole, tu nous fortifies. Par ta parole, ô Dieu, tu nous rends participants de ta nature. Ô, aide-nous à nous ouvrir grandement à toi, afin que par ton esprit, tu puisses nous parler. Tu puisses, Seigneur, déposer une parole de foi. Une parole prophétique, une parole qui va régénérer, renouveler notre entendement et nous accorder les discernements dont nous avons besoin. Discernement, Seigneur, qui nous permettra d'avoir une lecture pertinente des événements qui nous environnent. Seigneur, de savoir en quel temps nous sommes, afin, ô Dieu, de discerner ce que nous devons faire. Merci pour tout. Bénis ton serviteur, bénis chacun de nous, Seigneur. Que ta parole puisse avoir un écho favorable dans chacun de nous, qu'elle puisse trouver un bon accueil dans chacun de nos cœurs. Merci Jésus, merci pour ton amour, pour ta grâce, car c'est dans ton amour que tu nous accordes ta parole. Bénis-la dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Que Dieu soit donc béni. Il y a donc un temps pour tout, la parole de Dieu est là pour nous le rappeler, un temps pour le peuple de Dieu de louer son Créateur, d'adorer son Rédempteur en Christ, un temps pour le peuple de Dieu de se réjouir en sa présence, de lui exprimer ses sentiments d'une manière ou d'une autre, mais il y a aussi un temps où l'homme est appelé à se taire afin que Dieu parle, un temps où l'homme est appelé à tendre une oreille attentive, à mobiliser toute son énergie, pour pouvoir rester attentif alors que la parole de Dieu est proclamée. Et ce temps-là, eh bien, vient d'arriver. Je vous demanderai donc d'éteindre vos GSM ou alors de les mettre en mode avion pour ne pas perturber ces moments. Ce sont des moments solennels, des moments où le Seigneur parle, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais aujourd'hui revenir sur un des thèmes sur lesquels j'ai déjà eu à m'étendre dans les mois passés, à savoir la foi. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions voir ensemble combien la foi se nourrit des promesses de Dieu. Nous verrons l'impact des commandements de Dieu par rapport aux promesses de Dieu. Voyez-vous? Donc, la foi, tel est donc notre thème, la foi se nourrit des promesses de Dieu. Et le texte, le passage que nous allons lire, qui va donc nous servir de base à notre prédication, à notre réflexion de ce dimanche matin, en rapport donc avec la foi, c'est Hébreux, chapitre 10, Hébreux chapitre 10. À partir du verset 31 jusqu'au verset 39, qui est la fin même de ce chapitre. Hébreux 10, 31-39, nous lisons. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations. D'autre part, vous rendant solidaire de ceux qui subissaient ces traitements. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Gloire au Seigneur. La foi. Devrais-je rappeler une fois de plus à chacun de nous que la foi reste un élément essentiel, un élément fondamental, vital dans notre marche avec Dieu? Nous sommes donc, où nous venons d'entrer dans le dernier semestre de l'année 2017, le dimanche d'aujourd'hui, eh bien, c'est le deuxième dimanche de ce mois et je voudrais à cette occasion revenir donc sur ce thème de la foi qui reste et demeure un des grands thèmes de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais donc attirer l'attention de chacun de nous sur la nécessité de créer en nous, la nécessité de créer un climat de foi en nous, mais aussi autour de nous, parmi nous. Paul écrivant à Timothée, il lui a demandé d'être un modèle pour les fidèles, un modèle en foi, un modèle en amour, un modèle en esprit. Nous sommes donc appelés d'une manière ou d'une autre à être des modèles. Cela veut dire que nous sommes appelés à impacter les autres par notre foi. Car si notre foi, eh bien, n'est pas suffisamment puissante, si notre foi n'impacte pas notre environnement, c'est donc notre environnement qui finira par nous influencer. Nous devons donc, frères et sœurs, entretenir cette atmosphère de foi dans chacun de nous, parce que nous n'avons pas d'autre choix, voyez-vous. Si nous tenons absolument à expérimenter le salut ultime, là au ciel, c'est-à-dire arriver un jour, au terme de notre pèlerinage ici-bas, arriver dans le ciel de gloire de notre Dieu, si nous souhaitons, si nous désirons, si nous voulons, mes amis, demeurer dans cette relation que nous avons avec le Seigneur, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler à créer en nous un climat qui permette à la foi, mes amis, de s'exprimer, mais en même temps de tout faire pour que cette foi soit puissante pour impacter, pour influencer notre environnement. Gloire au Seigneur. L'Église de Jésus a besoin donc d'hommes et de femmes qui sont habités par une foi puissante, une foi efficace, une foi dynamique, une foi vivante, une foi débordante, afin de dégager l'odeur de vie. Dans ce monde, mes amis, dans ce monde en pleine déliquescence spirituelle, dans ce monde qui se délite sur le plan moral, dans ce monde où, mes amis, où il y a l'odeur de la mort tout autour de nous. Oui, ce monde est une vaste nécropole. Et dans ce monde-là, au cœur de ce monde-là, de ce monde en putréfaction, il y a l'Église de Jésus-Christ, qui est donc appelée à être le sel de la terre et la lumière du monde. Il y a donc l'Église de Jésus qui est appelée à apporter la vie là où il y a la mort, à influencer en bien notre monde. Vous voyez, il faut que notre vie, mes amis, soit marquée par une foi puissante en Christ et dans sa parole. Une foi qui nous amène à devenir, mes amis, le parfum du Christ dans ce monde, à dégager une odeur qui apporte de la vie là où il y a la mort, à être de bénédiction là où il y a la malédiction. L'Église reste, mes amis, le seul moyen d'action que Dieu a pour le salut de l'humanité, le seul moyen d'action pour bénir notre humanité. Quand nous parlons de l'Église, eh bien nous parlons de l'ensemble de ces hommes et de ces femmes qui un jour ont rencontré le Seigneur, ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Nous parlons donc de tous ceux en qui Christ habite. Cela reste, mes amis, et demeure une partie de la solution aux problèmes de l'humanité, quelle que soit leur nature. Il faut que nous en soyons conscients. Il faut que nous sachions que nous en sommes appelés à être le sel de la terre, à être la lumière du monde, à influencer le milieu dans lequel nous nous trouvons. Et pour cela, eh bien, il faut que nous vivions en étant habités par une foi dynamique, une foi qui s'exprime au-delà, qui ne se contente pas simplement de se manifester en nous, de par un climat agréable, de par un climat que nous aurons créé en nous, mais une foi qui impacte aussi notre environnement. Car si nous n'influençons pas la société, eh bien, croyez-moi, mes amis, c'est la société qui finira par nous influencer. C'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Voyez-vous, combien d'hommes et de femmes dans l'Église du Seigneur, disciples du Christ, se laissent facilement influencer par le monde. Voyez-vous, si vous n'influencez pas le monde, eh bien, sachez que c'est le monde qui finira par vous influencer. Nous sommes environnés par un climat propice au scepticisme, au doute, vous voyez, un climat propice à l'incrédulité. Et si nous ne faisons pas attention, eh bien cette incrédulité va nous contaminer. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont de la peine à décoller dans leur vie, de la peine à aller de l'avant, parce qu'ils vivent dans un environnement faisandé par le péché, pollué par le mal, un environnement toxique. Voyez-vous, ils ne reçoivent pas suffisamment l'oxygène d'en haut. Et par conséquent, ils sont tout le temps sous perfusion spirituelle. Voyez, sous assistance spirituelle. Or, le Seigneur voudrait que vous et moi, nous soyons des chrétiens habités par une foi ferme. Une foi qui défie, mes amis, tout ce monde de pensées qui aujourd'hui contribue au délitement de nos sociétés, qui transforme nos cités, nos villes en des véritables pandémoniums, des véritables pétaudières, des lieux où on trouve toutes sortes de violences, l'immoralité, l'idolâtrie. Oui. Quand je regarde dans notre pays, quand je vois le nombre d'églises qu'il y a, ne serait-ce que dans cette ville de Kinshasa, mais quand je vois aussi combien l'église n'a pas suffisamment d'influence, je me dis, là, il y a un problème. Il y a un problème. Combien de frères et sœurs sont venus voir parce que persécutés dans l'entreprise où ils travaillent, ayant affaire à des chefs qui appartiennent à telle ou telle autre loge mystique et démoniaque, qui leur mettent la pression. Il y en a à qui on a dit ouvertement, si tu veux connaître une promotion, tu n'as pas d'autre choix que de te faire membre de notre confrérie mystique. Voyez-vous, des entreprises. Il faudra peut-être que je mette une boîte pour que tous ceux qui se plaignent de ça viennent mettre et le nom de leurs entreprises. Parce que nous contribuons à l'enrichissement de ce pays. Il est donc anormal qu'on persécute un chrétien tout simplement à cause de ses convictions. Qu'on puisse l'épingler d'un poste de responsabilité parce que il a refusé de se fourvoyer dans ses poubelles démoniaques, dans cet occultisme, hélas, qui revient en force, comme j'ai eu à le souligner. Autrefois, on appelait tous ces gens, toutes ces confréries mystiques, de sociétés secrètes, car ils se cachaient. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est même un honneur d'afficher son appartenance à telle ou telle autre loge, voyez-vous, mystique. Aujourd'hui, c'est comme une gloire, voyez-vous, d'afficher ouvertement son allégeance à telle ou telle autre confrérie mystique ou autre, voyez. Non, nous devons, mes amis, à finir par influencer la société dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi nous avons la grâce d'être dans un pays qui organise des élections. Réfléchissez deux fois avant de voter. Voyez. Vous laissez vos réflexes tribaux vous amener à voter pour des gens qui n'ont rien à cirer avec vos convictions. Et vous vous étonnez qu'on prenne des lois qui vous mettent en porte-à-faux avec votre foi. Voyez, on ne nous sent pas. Des gens qui sont persécutés, des femmes qui subissent toutes sortes de harcèlements, voyez-vous, parce qu'elles ont décidé de ne pas se compromettre. On leur fait des avances, elles refusent, et après on trouve toutes sortes d'excuses pour le mettre à la porte. Il faut que cet état de choses s'arrête, qu'un jour nous dénoncions ces entreprises en disant, parce que vous faites ça, nous décidons de boycotter vos produits. Gloire à Dieu. Ça va faire réfléchir les gens, car nous représentons une force, nous l'Église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais il faut que nous comprenions que nous sommes appelés à être habités par une foi dynamique, qui ne résiste, qui ne recule devant rien, devant l'immoralité ambiante, devant la corruption ambiante. Nous devrions nous lever et créer une influence positive tout autour de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, l'incrédulité est contagieuse. Le doute, le scepticisme reste et demeure contagieux. À force d'être avec des gens qui mettent tout le temps la parole de Dieu en doute, vous finirez aussi par douter. Mais si vous êtes avec les gens, eh bien, qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, qui la mange, qui la boive, qui s'égave de la parole de Dieu, eh bien cela suscitera en vous ce désir de vouloir connaître la parole de Dieu. Rappelez-vous de ce 12 explorateurs à l'époque de Moïse. Moïse arrive aux frontières du pays promis. Ils ont quitté l'Égypte en route vers ce pays promis. Et avant de prendre possession de ces terres de Canaan, qui étaient déjà habitées à cette époque, Dieu demande à Moïse, il dit ceci, je vous donne ce pays. Il donne une promesse, alléluia. Je vous donne ce pays. Dieu savait qu'il avait affaire à un groupe d'anciens esclaves qui n'avaient aucune expérience militaire, oui ou non. À part Moïse qui a vécu à la cour de Pharaon, qui certainement fréquentait les meilleures académies militaires de l'époque, a reçu cette éducation, mais les autres, ils venaient tout droit de l'esclavage, avec la mentalité d'esclave. Mais voilà que Dieu leur dit, voilà le pays que je vous ai promis. S'il les avait fait sortir d'Égypte, c'était pour le faire entrer dans ce pays-là. Mais au bord de ce pays, le Seigneur demande à Moïse d'envoyer 12 explorateurs. Je n'aime pas le titre que nous trouvons dans certaines Bibles, espions, parce qu'espionner a toujours une connotation péjorative. Oui ou non? Si je t'envoie et dis, va espionner un peu, Dido, ça veut dire quoi? Hein? Nous ne sommes pas appelés à nous transformer en agents de KGB ou de la CIA. C'est pourquoi la vraie terminologie, c'est explorateur. C'est d'ailleurs le verbe que nous trouvons. Ça, ce sont les titres. Donc, vous voyez, selon telle ou telle autre version, ceux qui ont préparé la version vont disséquer, vont couper les chapitres et mettre des titres. Normalement, ce sont des explorateurs. Soyons bibliques. Disons ce que la Bible. Ne vous laissez pas influencer par les titres. Enfin bref, 12 explorateurs sont partis. Ils ont vu le pays. C'était un pays découlant de lait et de miel, comme le Seigneur leur avait dit, n'est-ce pas? C'était un pays, mes amis, où il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Eux qui venaient d'Égypte, voyez, un pays quasi désertique en dehors du delta du Nil. Ils voient ce pays avec beaucoup d'arbres fruitiers, une flore extraordinaire. Ils disent, c'est formidable. Mais ils voient aussi qu'il y avait des villes, certes, mais des villes fortifiées. Ils voient aussi que ce pays était habité par des géants, les fils d'Anak et d'autres. Et quand ils reviennent faire le rapport, 10 vont raconter exactement ce qu'ils avaient vu. Voilà. Mais quelle va être leur conclusion? Oui, Moïse, nous avons vu des choses extraordinaires. C'est un très beau pays. Dieu a eu raison de nous conduire jusque dans ce pays. Cependant, nous y avons vu des géants. Les villes qui sont là-bas sont fortifiées. Nous n'avons pas de chars, comme les Égyptiens. Comment allons-nous faire tomber les murs de ces villes fortifiées? Nous n'avons pas d'expérience militaire. Comment allons-nous nous mesurer à ces géants, à ces peuples aguerris, habitués à la guerre? Ça ne sert à rien, Moïse, en d'autres mots. L'incrédulité. Le rapport va susciter toutes sortes de murmures, va susciter la peur parmi la communauté israélite, au point où ils vont se tourner contre Moïse et Aaron en disant, tu vois, il eut fallu nous laisser en Égypte, maintenant tu nous amènes ici. Nous n'allons pas entrer dans ce pays. C'est impossible. L'incrédulité contagieuse. Par leur manque de foi dans la promesse de Dieu, Dieu a dit, tu prendras possession de ce pays, peu importe ceux qui habitent le pays. Peu importe les géants qui se dressent devant toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Gloire au Seigneur. Lorsque lui est avec nous, rien ne peut nous résister. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire dans sa promesse. C'est de croire ses promesses. Israël n'avait pas à se soucier du danger, des obstacles qu'il y avait dans la terre promise. Israël devait en tout et pour tout demeurer dans la promesse de Dieu. Dieu leur avait dit, je vous donne ce pays. Et se lever comme un seul homme à la conquête de ce pays en disant, Seigneur, ils sont géants, ils sont costauds, ils sont mieux armés que nous, ils sont mieux expérimentés. Cependant, avec toi, nous les écraserons. Deux explorateurs vont se détacher de ce groupe-là, Josué et Caleb. Caleb, animé d'une foi ferme, va leur dire, certes, il y a des géants, certes, il y a des villes fortifiées, mais montons et nous prendrons possession de ce pays. Dieu nous l'a promis, et lui, il est fidèle envers sa parole, et lui ne se trompe pas, et lui ne peut pas dire un mensonge. Quand il a dit une chose, eh bien la chose est appelée à devenir une réalité. Nous devons simplement croire. Oui, la foi se nourrit des promesses de Dieu. Mes amis, le combat de la vie chrétienne a toujours été non seulement celui de croire, celui d'avoir foi dans la parole de Dieu, dans les promesses que Dieu nous fait, mais le combat de la vie chrétienne est aussi celui de continuer à croire. Non seulement avoir la foi aujourd'hui, mais continuer à entretenir cette foi. C'est seulement à ce prix-là que nous grandirons dans la foi et que nous expérimenterons effectivement l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Alléluia. Mes amis, rien n'est impossible à Dieu. Aucune parole sortie de la bouche de Dieu ne restera impuissante, pas du tout. Tout ce qui sort de sa bouche et que nous recevons avec foi et que nous réagissons avec confiance en lui, eh bien, est appelé tôt ou tard à devenir une réalité palpable. Gloire à Dieu. Alléluia. Une étude profonde des Saintes Écritures à propos des personnes, de personnages bibliques comme Enoch, comme Abraham, comme Moïse, comme des prophètes, Élie, Élisée, mais aussi une étude profonde du Nouveau Testament et des personnages que nous y trouvons, comme l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Jean, comme l'apôtre Paul, eh bien cette étude nous montre que tous ces gens-là avaient compris la place prépondérante de la foi et sa nature vitale. C'est ce qui leur a permis, mes amis, de marcher avec Dieu et de mener une vie en conformité avec sa parole. Tous étaient des hommes de même nature que nous. Regardez, mes amis, allez passer, faire une petite visite dans cette galerie d'honneur que nous trouvons dans la parole de Dieu. Galerie qui est là devant nous avec des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire à cause de leur foi. Alléluia. Des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire, qui ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire des hommes parce qu'ils étaient habités par une foi dynamique. Ce sont des gens qui ont cru jusqu'au bout que Dieu était capable d'accomplir sa parole. Ils ont cru jusqu'au bout que les promesses de Dieu, eh bien, lorsque nous les entretenons en nous, lorsqu'elles trouvent une bonne réaction de notre part, eh bien, ces promesses finissent toujours par devenir une réalité. Hein, gloire au Seigneur. Dans le passage que nous venons de lire, et ce à partir du verset 35 jusqu'au verset 39, nous voyons que l'auteur inspiré de cet épître nous exhorte à la fermeté dans la foi. Nous montre qu'il ne s'agit pas simplement de commencer une vie avec Dieu par la foi, mais encore de demeurer dans cette foi. Voyez-vous ? Car c'est en demeurant dans cette vie de foi, en marchant par la foi, que nous serons agréables, que Dieu continuera à trouver du plaisir dans chacun de nous. C'est ce qu'il nous dit. Le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Et la foi n'est-elle pas l'assurance de choses qu'on espère? N'abandonnons pas cette assurance qui comporte une grande récompense. Et il ajoute, vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Nous devons persévérer, voyez, dans la promesse que Dieu nous a faite, jusqu'à ce que Dieu nous récompense, c'est-à-dire qu'il nous donne la chose qu'il nous a promise. Alléluia. Ça peut être une santé sur le plan physique. On a prié, on est malade. Dieu nous donne une parole, une promesse comme quoi il va nous guérir. Eh bien, quelle que soit l'avis des médecins, si Dieu a parlé, eh bien, et que nous croyons, tôt ou tard, il finira par accomplir sa parole. Mais pour cela, il faut de la persévérance, mes amis. Vous voyez que dans les choses de Dieu, la persévérance est toujours présente. Or, nous vivons dans une société qui nous amène, qui suscite en nous des attitudes de facilité. C'est vrai, c'est pas, vous devez connaître ça, ce qu'on appelle le principe ou la loi du moindre effort. C'est ce qui a amené l'Occident à faire beaucoup de progrès. Vous voyez? C'est-à-dire, on essaye toujours d'inventer quelque chose qui permette à la personne de fournir un peu moins d'efforts pour des résultats conséquents. La loi du moindre effort, eh bien, c'est une très très bonne chose. Grâce à elle, beaucoup d'inventions ont été faites dans beaucoup de domaines. Vous voyez? Mais cependant, il y a le revers de la médaille. Ça crée un environnement qui nous pousse à la facilité. Il y a encore un temps, c'était l'époque des TSF. Vous voyez? Il y a encore un temps, c'était l'époque des téléphones fixes. Il fallait aller à la cabine. Et encore, il fallait en trouver une pour pouvoir téléphoner. On allait à la poste, hein, sur le boulevard à l'époque. Hein. Moi, j'ai connu ça. Hein. Et puis, il fumait un temps où le pays ne payait pas sa contribution. Quand vous appeliez l'Europe, on demandait à la personne que vous appeliez si elle était prête à payer la facture. Certains se souviendront. Hein. Ouais, on a connu tout ça. Oui. En Europe, c'était pareil. Je me souviens, en hiver, tu vas chercher une cabine pour téléphoner au pays. Mais la technologie est passée par là. Le principe du moindre effort. Vous voyez, il est à la base, cette loi est à la base de l'innovation dans beaucoup de domaines, beaucoup de disciplines. Mais cependant, comme je l'ai dit, cette loi a aussi créé un environnement qui amène les gens à vouloir la facilité à tout prix. Voyez-vous, il n'y a plus cette culture de persévérance, cette culture de la transpiration. On veut tout avoir, voyez, sur simple claquement de doigts. Paf, ah, ok. Voyez. On veut être millionnaire en un clin d'œil. Voilà pourquoi les gens jouent au loto. Hein. Hein? Oui ou non? Oui. On ne veut pas travailler et tout ça. On veut de l'argent qui nous tomberait du ciel, comme une pomme tomberait sur notre tête par un coup de vent, une petite tempête. Ouais. Donc, dans un tel environnement, la notion même de persévérance devient un problème. Nous voulons avoir tout facilement. Non! Avec Dieu, il n'y a pas de GSM. Avec Dieu, c'est toujours le genou que nous devons user. Oh, alléluia! Comme je l'avais dit une fois, avec Dieu, il n'y a pas d'escalator. Hein, vous savez, ces escaliers électriques où vous ne faites aucun effort. Quand vous arrivez, moi, tac! Vous pouvez regarder devant, vous pouvez regarder derrière vous, en bas, en haut, vous êtes au moins sûr que vous arriverez à destination. Alors qu'autrefois, ben, il fallait prendre les marches. Voyez? Et la conséquence, c'est que nous avons tendance à nous engraisser. Parce qu'on ne brûle pas assez. Hein? C'est ainsi que dans certains pays d'Europe maintenant, la tendance est de supprimer pour des 2, 3, 4 niveaux, allez, enlever les ascenseurs. Pour permettre aux gens de fournir des efforts physiques. Faites-le. Faites attention à cette loi du moindre effort. Vous avez votre chauffeur. Vous arrêtez ici, maman, aux Anangouba. Non, il n'y en a pas. Là-bas, 10 mètres, démarre. Les mamans, vous en savez, hein, quelque chose. Et on arrive là-bas. Mais vous pouvez marcher. Ça fait du bien, mes amis. Nous sommes bâtis autour du mouvement, je l'ai déjà dit. Vous voyez, la sédentarité, hélas, est à la base de beaucoup de maladies cardiovasculaires ou autres. Enfin, bref. Donc, nous voyons dans ce passage qu'il y a moyen. Il y a moyen, mes amis, de pouvoir, à un moment, baisser les bras, se relâcher. Vous voyez ? Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que Dieu vous a promis. Alléluia. Donc il y a un temps où nous laissons cette promesse nous envahir. Un temps qui peut durer un jour, qui peut durer 10 semaines, qui peut durer un an, peu importe. C'est lui le maître du temps. Alléluia. Mais continuons à caresser cette promesse, car tôt ou tard, elle finira par s'accomplir. La fermeté dans la foi, vous voyez? Gloire à Dieu. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que nous devrions être, se retirer. Littéralement, écoutez ce que l'auteur inspiré nous dit. Nous ne sommes pas de la perdition pour la perte, mais de la foi pour la conservation de l'âme, autrement le salut. Et une version traduit ceci, nous ne sommes pas hommes à faire défection pour notre perte, mais hommes de foi pour le salut de nos âmes. Donc il y a cette possibilité de faire défection, de faire naufrage par rapport à la foi. Il y a, mes amis, cette possibilité de se retirer, pour utiliser le verbe que l'auteur inspiré utilise ici. Souvenez-vous, mes amis, des Israélites. J'avais été esclave en Égypte. Dieu a étendu son bras puissant. Il les a arrachés de l'esclavage d'Égypte. Il les a délivrés de cet état d'asservissement dans lequel ils étaient. Ils étaient quasi chosifiés par les Égyptiens. Aux yeux des Égyptiens, ils n'avaient aucune valeur. C'était simplement des esclaves qui devaient travailler pour eux, qui semaient, récoltaient et leur permettre de manger, etc. Voilà que Dieu les délivre. Dieu les arrache de cette situation terrible. Il leur donne la parole. Voilà, j'avais donné cette parole à vos pères. J'avais dit, j'avais promis que je vous donnerais un pays. Maintenant, allez, je vous fais sortir d'Égypte pour que vous entriez en possession de ce pays, pour que vous preniez possession de ce pays. Ils ont réagi. Ils ont suivi Moïse. Mais vous savez, à travers leur pérégrination dans le désert, à chaque fois qu'il y avait un obstacle, ce peuple murmurait. À chaque fois que Moïse devait revenir vers les seigneurs pour intercéder en leur faveur, c'était fatigant de diriger un peuple comme celui-là. Et vous comprenez pourquoi la Bible parle de Moïse comme étant l'homme le plus patient de la terre. C'était des rebelles. C'était des gens qui étaient toujours prêts à murmurer. C'était des gens, eh bien, ils avançaient, ils faisaient un pas vers la terre promise. En même temps, ils s'arrêtaient pour regarder et contempler au loin les concombres, les tomates d'Égypte. Voyez ? Alors que Dieu les avait arrachés de là pour que, eh bien, l'Égypte appartienne désormais au passé. Ils ont cru pour un temps. Et ils n'ont pas demeuré, mes amis, dans cette foi-là. Ils ont fini par abandonner la foi. Voyez-vous ? Et c'est ce qui leur a privé, mes amis, l'entrée dans la terre promise. Certes, ils ont eu à faire face aux problèmes d'immoralité, d'idolâtrie, aux problèmes de rébellion, de cupidité, tout cela. Mais ce qui les a véritablement empêchés d'entrer dans la terre promise, c'était ce monstre horrible, cette offense terrible que l'incrédulité. Bien que Dieu ait promis aux hommes et aux femmes d'Israël qu'il leur donnerait cette terre comme il l'avait promis à leur père, eh bien, tous ne sont pas entrés. À part qui ? Deux. Qui s'étaient déjà distingués avant même de prendre possession de la terre. Qui s'étaient dit, Dieu nous l'a fait cette promesse. Avançons, peu importe les obstacles. Avançons, peu importe les collines, les montagnes qui se dressent devant nous. Par leur manque de foi, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils se sont retirés de la promesse, vous voyez. Ils se sont, par contre, et par conséquent, ils se sont disqualifiés. De nos jours, mes amis, nous avons tendance à dédramatiser l'incrédulité comme s'il s'agissait d'une faiblesse comme tant d'autres faiblesses. Nous avons une approche très complaisante vis-à-vis de l'incrédulité, alors qu'il n'en est pas ainsi pour Dieu, mes amis. Pour Dieu, c'est un péché terrible. C'est un monstre horrible que nous devons absolument combattre. Beaucoup d'hommes et de femmes passent à côté des grâces et des bénédictions auxquelles le Seigneur les a destinées simplement à cause de l'incrédulité. Voyez ? Il y a des vies qui sont détruites aujourd'hui, comme hier, tout simplement parce qu'à un certain moment, dans leur parcours, ces vies n'ont pas fait confiance au Seigneur. Oui, la marche avec Dieu, c'est une marche qui demande de la persévérance, de l'endurance, mes amis. Vous voyez ? Ne soyez pas de ceux qui se laisse facilement berner par cet évangile efféminé, celui de la prospérité par tous les moyens, voyez, qui présente la vie chrétienne comme une vie de facilité incroyable. Nous sommes les fils et les filles du roi des rois. Il suffit simplement de s'asseoir sur la grâce, de tourner les pouces, et bien les bénédictions nous atterrissent de toutes parts. Oh, j'aurais aimé qu'il en soit ainsi, mais heureusement que ce n'est pas comme ça. Parce que ce qui est formidable dans la persévérance, ce n'est pas tant que nous amène à expérimenter la grâce, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le plus important, c'est le travail que la persévérance fait en nous. Il nous rend fort. Il nous fortifie, alléluia. Quand quelqu'un passait par le feu, eh bien, le feu le marque à jamais. Il développe un caractère de guerrier. Et Dieu veut de guerriers dans son royaume. Car nous devons conquérir des terrains, mes amis. Nous devons piller l'enfer pour remplir le ciel. Et pour cela, nous devons être des hommes et des femmes aguerris. Comment être aguerris si nous allons de facilité en facilité? Il faut que nous connaissions l'épreuve. Il faut qu'il y ait un temps entre le moment où le Seigneur nous fait la promesse et le moment où il s'engage à l'accomplir. Et ce temps-là, eh bien, c'est un temps où nous allons persévérer. Et gloire au Seigneur. Dieu décrit, mes amis, l'incrédulité comme étant le fait de se retirer. Puisque la promesse est le chemin qui conduit vers le Seigneur, eh bien, lorsque nous faisons preuve d'incrédulité, de fermeture totale à la promesse de Dieu, en quelque sorte, nous nous retirons du voyage, n'est-ce pas? Nous nous retirons du train de la grâce. Et ça, c'est terrible. Car la Bible nous dit, nous l'avons lu au verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Et le diable le sait. Voilà pourquoi il combat notre foi. Et mon juste vivra par la foi. Oui, mais il y a toujours possibilité que ce juste-là se retire. C'est la parole qui vient après. Mais s'il se retire, dit le Seigneur, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et cela déplaît fortement au Seigneur que nous nous retirions des promesses qu'il nous a faites. Car nous retirer de ces promesses peut s'avérer bien plus destructeur que les péchés choquants dont nous parlons souvent. Oh, il a menti, il a fait ceci. L'incrédulité est terrible. Quelqu'un ment, peut tomber dans le mensonge. Il revient, il demande pardon au Seigneur, oui ou non. Mais avec l'incrédulité, eh bien, il n'y a même plus cette confiance dans la promesse que le Seigneur nous a faite. Laquelle? Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés, et pour nous purifier de toutes, c'est une promesse. Oh, alléluia. Et l'incrédulité va détruire cette promesse et nous amener à douter. Et lorsqu'on se met à douter, on ne croit plus. Hein? On ne croit plus. Voyez. Hébreux 3, 12 décrit ainsi le cœur de celui qui est incrédule. Écoutez. Prenez donc garde, frères. Je pourrais ajouter, sœur, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Voilà pourquoi j'ai commencé ma lecture au verset 31 où il est dit, il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Sois avec lui, mon ami. Et être avec lui suppose demeurer dans ses promesses. Continuer la route avec lui. Car se retirer, eh bien, se tomber entre ses mains, et quand on tombe entre les mains de Dieu pour le jugement, eh bien, on est perdu d'avance. Voyez? Le juste vivra par la foi. Le juste est appelé à marcher par la foi. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi, mes amis, l'objectif premier de Satan est toujours de saper notre foi à la base. Voilà pourquoi l'objectif de Satan, c'est de distraire le corps du Christ avec toutes sortes d'enseignements. Certes, dans ces enseignements, il y a le nom de Jésus. Certes, on se réfère à la Bible, mais en réalité, ces enseignements n'ont aucune assise apostolique. Et les gens courent. Et les gens se jettent dans les bras, je ne sais, de tous les saints qui se présentent à eux, de tous les apôtres, de tous les bishops, de tous les docteurs, de tous les prophètes. Et ce, pour leur mort. Voyez. Il y a des gens qui souffrent de cette démangeaison. Leurs oreilles les démangent. Il faut absolument écouter une prophétie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète a dit quoi? On ne cherche même pas à savoir si l'appel de prophète est vraiment véridique. Aujourd'hui, ben, on nomme les prophètes dans des assemblées. Ouais. Quelquefois pour garder les gens, afin qu'ils ne soient pas tentés de quitter l'assemblée, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a que le pasteur et son épouse qui dirigent tout. Alors on commence à distribuer le ministère, comme on distribue le crédit. Oui. Non. En priant, j'ai vu que Dieu t'appelle à être prophète. Comme ça, tu as vu quoi? Hein? C'est sa bouche, c'est son nez, sa forme. Oui. Ainsi on nomme des gens. Alors vous voyez, je suis prophète, hein? Je suis prophétesse. Et tout d'un coup, on change de... on change de démarche. On a tout le temps le visage fermé. On ne parle plus normalement, on ne parle qu'en langue. Ouais. Quelqu'un vous salue. Ah, ça va? Ah, gloire à Dieu. Zamba Pambolam. Ça, c'est du cinéma. Grandissez dans la maturité, mes amis. Faites preuve du discernement. Ces faux, ces fausses prophéties vont détruire votre foi. Le diable croit. Hein? Ce n'est pas parce que vous avez adhéré de manière intellectuelle au fait de la Bible, vous croyez que c'est vrai, que cela s'appelle la foi. Non, le diable connaît. Il sait que Jésus est mort à la croix, oui ou non. Il sait que sa mort, la mort de Jésus, est salut pour l'humanité. Oui ou non? Il connaît la puissance du sang de Jésus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il devient enfant de Dieu. Faisons attention. Cet assentiment intellectuel, ce n'est pas encore de la foi. Le monde d'aujourd'hui est rempli de théologiens qui gagnent leur vie comme il faut en enseignant la théologie, mais qui n'ont pas de foi. Vous savez ça? Et aujourd'hui, tout le monde veut faire la théologie. C'est devenu même un moyen de se valoriser. Quand vous arrivez quelque part, oui, j'ai un doctorat en divinité. C'est pas mauvais, hein? Vous pouvez le faire. Mais il ne faut pas croire que votre foi a grandi parce que désormais, vous avez un cerveau à plusieurs étages. Premier étage, c'est les humanités. Deuxième étage, c'est le premier cycle, la licence. Maintenant, la maîtrise. Hein? Troisième étage, c'est le doctorat. Il y en a qui vont plus loin. Quatrième étage, le diplôme postdoctoral. L'agrégation, tout ça. Alors, mais vous pouvez avoir ça. Et avoir un brin de foi comme la pointe d'une aiguille. Et avoir quelqu'un qui lui se contente simplement des enseignements qui lui sont donnés à l'Église, qui aime Dieu, qui lit la parole, qui cherche la communion avec le Saint-Esprit, qui se nourrit des promesses de Dieu. Celui-là est grand aux yeux de Dieu. Car la science, les études, si on ne fait pas très attention, nous mettent sur un piédestal. Voyez? C'est comme ça que les gens cherchent des titres. Ils veulent absolument qu'on le reconnaisse. Ce n'est pas mauvais d'avoir des titres. Oui, mais il ne faut pas croire que vous devenez spécial parce que vous avez quatre barrettes ici, sur votre toge. Non, certes, vous avez étudié, certes, vous êtes engagé dans la recherche, certes, vous apportez quelque chose aux étudiants, mais la foi, c'est plus que cela. Donc, parce que le juste est appelé à vivre par la foi, nous nous arrêterons là. parce que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, eh bien, nous comprenons pourquoi Satan est toujours à l'affût pour essayer de saper, pour essayer de détruire notre foi. Notre adversaire sait trop bien, mieux que quiconque, que le juste vit par la foi. Que si tu es en Christ, il sait que tu es appelé à vivre par la foi et que c'est la foi qui te maintient en lui. Alors pour t'avoir, il va attaquer cette foi-là. Voyez, la foi, mes amis, c'est comme une main. Une main que l'on tend afin de recevoir ce que Dieu a promis. Voyez, c'est une main tendue vers le Seigneur. Dieu a toutes sortes de provisions pour notre vie. Toutes sortes de provisions pour notre voyage, notre pèlerinage ici-bas. Il sait que nous sommes en route vers le ciel. Il sait que nous sommes en route vers notre patrie, la vraie patrie. Il sait aussi que dans ce voyage, nous rencontrons toutes sortes d'obstacles. Dans ce voyage, l'ennemi fait tout pour nous distraire. Il sait tout cela. Et il a prévu toutes sortes de provisions. Mais ces provisions ne vont pas nous tomber du ciel comme ça, comme par hasard. Voyez-vous? Et la foi est là. C'est cet élément, c'est cette main que nous tendons vers le Seigneur afin de recevoir de lui ses provisions, ce qu'il nous a promis. Mon frère, ma sœur, si le diable peut vous faire baisser les bras et les mains et vous empêcher de l'élever vers le ciel, tourner vers Dieu, il aura réussi son coup. Voyez, c'est comme ça qu'il essaie par tous les moyens de nous faire baisser la main. Et lorsque la main est baissée, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, toutes les provisions divines resteront là où elles sont. Où c'est? Au ciel. Mais quand nous tendons la main, plus nous marchons par la foi, plus notre main s'allonge. Alléluia. Plus Dieu nous donne ses provisions. Et notre foi est nourrie. Et notre foi grandit. Alléluia. Oui, les promesses, eh bien, sont là pour nous, pour nourrir notre foi. Alléluia. Et la fois prochaine, nous parlerons des promesses et des commandements. Et nous allons voir que la Bible nous interdit, dans la loi morale, dans les 10 paroles ou les 10 commandements, de ne pas voler, oui ou non, de ne pas mentir, de ne pas commettre adultère, de ne pas faire de faux témoignages, de ne pas convoiter, etc. Ça, ce sont des choses que je pourrais résumer par « tu ne feras pas ». Tu ne feras pas. Mais mes amis, ces commandements-là, vous pouvez les observer et ne pas avancer dans la vie. C'est là que nous allons voir que ce qui nourrit la foi, ce sont les promesses. Abraham aurait pu rester en Chaldée, où il était, tout en continuant à connaître Dieu, oui ou non. Mais le Seigneur lui a donné une promesse. Pars. Et dans son voyage, il va expérimenter beaucoup de choses. Dieu, à chaque fois, va lui donner une promesse. Et ce sont les promesses-là qui ont nourri sa foi et qui l'ont amené à aller de victoire en victoire, de rencontrer les obstacles, certes, mais de les marcher, de les écraser, parce qu'il avait foi, foi dans le Dieu qui lui était apparu. Et même lorsque le Seigneur lui demande d'aller lui sacrifier son fils, cet homme n'hésite pas. Voyez-vous, cet homme n'hésite pas, et Paul nous dira... Parce qu'il avait foi que Dieu avait le pouvoir de ressusciter son fils après qu'il l'ait sacrifié. Parce que Dieu avait ça, ben il n'a pas hésité. Il est monté à la montagne pour aller donc sacrifier son fils. Que Dieu soit béni. La foi se nourrit des promesses. Alors soyez des hommes et des femmes qui lisent la parole de Dieu à la recherche des promesses. Ces promesses-là vont nourrir, vont affermir, vont consolider votre foi. Et plus votre foi sera grande, plus, mes amis, vous aurez de l'influence tout autour de vous. Plus vous vivrez pleinement cette vocation qui est la vôtre, d'être le sel de la terre, qui lutte contre la corruption ambiante, d'être la lumière du monde, qui non seulement éloigne les ténèbres, mais la lumière étant de plus en plus grande en toi, eh bien cette lumière commencera par absorber cette obscurité autour. Ainsi, les gens qui vous approcheront, quelque part, seront un peu dans la pénombre, voyez, et pourront voir en vous cette lampe que Dieu a allumée pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Merci. Nous voulons bénir ton saint nom pour le partage de ta parole. Tu nous appelles, Seigneur, à être une communauté animée par ta foi. Tu nous appelles, Seigneur, à être des disciples habités par une foi dynamique, une foi vivante. Seigneur, et pour cela, nous devons créer un climat en nous, mais aussi autour de nous, qui permette à cette foi de naître, de grandir et de s'exprimer au-delà. C'est de cette manière que nous serons des modèles, Seigneur, en conduite, des modèles en foi. Aide chacun de nous à comprendre que, Seigneur, la foi reste l'élément essentiel dans notre relation avec toi. Et parce que c'est un élément, c'est l'élément essentiel, parce que c'est l'élément fondamental, vital, Seigneur, ô Dieu, dans notre relation avec toi, que le diable cherche par tous les moyens à couper ce cordon ombilical qui reste, demeure la seule ligne vitale qui nous relie à toi. Alors garde-nous, Seigneur, de nourrir notre âme avec n'importe quoi, mais plutôt avec ta parole, avec les promesses telles que nous les trouvons dans ta parole. Garde-nous d'être de ceux qui se retirent, comme, Seigneur, ce peuple d'Israël qui a expérimenté ta puissance, qui a été libéré de l'esclavage, qui a vu mille et une merveilles, oh Dieu, dans leur parcours vers la terre promise, mais qui à un moment s'est retiré de cette promesse. Et à partir de ce moment-là, ils ont ouvert la porte à la perdition. Mais gloire te soit rendue de ce que Caleb et Josué, eux, sont restés dans cette promesse. Et ils ont fini par prendre possession du pays. Donne-nous, Seigneur, d'être de ceux qui ne se retirent pas, mais plutôt qui continuent à vivre par la foi. Merci pour tout. Bénis également ces moments que nous aimerions te consacrer, Seigneur, aux offrandes et aux